Ou alors, par exemple, dans le chemin de la perfection, 18.9, elle dit « Dans le palais de notre âme habite quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Dieu. » Voilà, Dieu en Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. « Et ce quelqu'un attend que nous lui rendions visite. » Il faut choisir de descendre en soi pour aller lui rendre visite. Au chemin de la perfection, donc 18.11, elle dit « Il m'est avis que si j'avais compris, comme je le fais aujourd'hui, qu'entre ce tout petit palais qu'est mon âme habite un si grand roi, je ne l'aurais pas laissé seul si souvent. Je me serais tenu de temps en temps près de lui, et j'aurais fait le nécessaire pour que le palais soit moins sale. » C'est Thérèse a toujours été une experte du ballet. Hein. Qu'il est donc admirable de songer que celui dont la grandeur remplirait mille mondes et beaucoup plus s'enferme ainsi en une si petite chose. À la vérité, comme il est le maître, il est libre, et comme il nous aime, il se réduit à notre mesure. Alors, c'est admirable. Hein. Voilà. Donc l'oraison, vous voyez, est bien dialogale. C'est vraiment un commerce d'amitié fréquent, comme il convient à des amis. Et il faut prendre conscience qu'effectivement on est aimé de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde est blessé, tout le monde se plaint d'être... il faut aussi dire que malgré toutes les coups qu'on a pris, il y a quelque chose qui est plus fort que tout ça, c'est l'amour dont le Père ne cesse de nous aimer. Et il faut répondre à l'amour par l'amour. Je passe certaines choses. Jésus est l'ami de l'âme. Dans sa vie, 12.2, Thérèse dit « Nous pouvons nous représenter nous-mêmes devant le Christ, nous exercer à vivement nous éprendre de son humanité sacrée, vivre en sa présence, lui parler, lui demander ce dont nous avons besoin, nous plaindre à lui de nos peines, nous réjouir avec lui de nos joies, et ne pas l'oublier pour autant, sans chercher des prières apprêtées, mais des mots conformes à nos désirs et à nos besoins. C'est une excellente façon de faire de très rapides progrès. Voyez. Ceux qui s'efforcent ainsi à vivre en cette précieuse compagnie a beaucoup en profité, etc., etc. Elle les tient pour avancer. Vous voyez, on retrouve l'idée d'oratio au sens où il y a des paroles. Toute la difficulté consiste à entrer en nous-mêmes, ce qui n'est pas facile dans un monde bruyant. Déjà saint Augustin s'en plaignait en disant dans les confessions « Vous étiez avec moi et moi je n'étais pas avec vous. » Voilà. Il était à la superficie de lui-même alors que Dieu était à l'intérieur de lui. Et le pauvre Augustin cherchait Dieu à l'extérieur, il ne le trouvait pas parce qu'en fait Dieu était à l'intérieur de lui. Donc la difficulté, vous voyez, c'est d'arriver à créer des conditions pour notre corps, de pouvoir se mettre dans la situation de faire cette descente en soi. Et alors, quand on descend, deuxième point, c'est on rencontre une présence active, car Dieu, voilà, simplement, au fond de la boîte, n'a rien fait. L'oraison n'est pas un exercice spirituel neutre, une simple pause dans nos activités de tous les jours. C'est véritablement une rencontre transformante. Notre ami nous pousse à le suivre, à l'imiter, et finalement la pratique de l'oraison mentale débouche sur quoi? Eh bien sur notre conversion, car le Verbe divin se laisse contempler dans sa parole qui stimule, hein, évidemment la parole de Dieu nous stimule à changer de vie. Sainte Thérèse s'oppose à une certaine forme d'oraison qui se perdrait dans la contemplation plus ou moins réaliste de l'essence divine, ce qui était un peu le péché mignon des Rénaux flamands dont je parlais tout à l'heure. Pour elle, il n'y a pas d'autre accès à Dieu le Père que l'humanité de son Fils, donc que le Christ, est vraiment la voie, le chemin et la vie qui conduit au Père. Et ça aboutit à une conversion progressive, ferme, déterminée, mue par la rencontre intérieure de l'amour et non pas par l'application d'une loi extérieure. Dans les demeures, elle dit « Je répète qu'il faut pour cela que vos fondations ne portent pas seulement sur la prière et la contemplation, car si vous ne recherchez pas les vertus, si vous ne vous exercez pas à les pratiquer, vous ne serez jamais que des naines. Et même plaise à Dieu qu'il ne s'agisse pas de ne pas grandir, vous savez que celui qui ne croit pas décroît. » Enfin, croit pas, qui grandit pas, décroît. Et j'estime impossible que l'amour, là où il est, se contente d'être toujours le même. C'est la grande idée, si on n'avance pas, c'est qu'on recule. Et donc, vous voyez que l'oraison, c'est vraiment un moteur de notre progrès spirituel. Autrement dit, c'est pas juste comme ça, se reposer auprès de Dieu, et puis, comme on va prendre, je sais pas quoi, moi... du repos, disons, une distraction, c'est véritablement le moteur de notre progression, de notre progrès spirituel. Donc c'est vraiment une véritable arme pour notre sainteté. Il faut apprendre dans l'oraison à se donner, à vivre de charité, c'est-à-dire finalement, si on rencontre vraiment Dieu et on veut l'imiter, eh bien, de se libérer des fausses richesses, des affections déplacées, ou encore de ce qu'on appelait beaucoup, dans ce siècle espagnol assez fier, le point d'honneur, qui a fait des morts.
C'est quoi le point d'honneur ?
Le point de mort, c'est que si vous me répondez, si vous me répondez de travers, je file ma rapière à travers le corps.
Bon.
Oui, bah, c'est-à-dire ils avaient le sang chaud, hein, les Espagnols. Alors, donc elle apprend, par exemple, donc le contraire du point d'honneur, c'est l'humilité, vous voyez. Alors le fondement pour ça, eh bien, c'est se décentrer de soi, en se centrant sur le Christ, autrement qui est la visibilité de Dieu. Donc il faut accepter de ne pas être le soleil autour duquel tout doit tourner, mais accepter d'être sur orbite et de tourner autour du seul vrai soleil qui est Dieu, mais d'un Dieu qui devient accessible parce qu'il est visible, parce qu'il est humain. Vous voyez, c'est plus le mot en quatre lettres que quand on y pense, finalement on pense dans la minute qui suit à son agenda et à ce qu'on va faire après l'oraison, en gros, parce que Dieu. Par contre, si c'est Jésus, avec ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, son visage, etc., et bien à ce moment-là, ça nous touche plus. Et là, on est... Ben c'est comme qu'on... si vous voyez le nom de quelqu'un, ça ne vous dit rien. Si vous voyez son visage, si le visage est avenant en plus, et bien à ce moment-là, ben vous faites attention à lui, quoi. Et bien là, c'est la même chose. Donc, d'où l'importance, Thérèse revient continuellement là-dessus, il faut, dans l'oraison, avoir Jésus en face de soi. Donc, l'oraison aboutit à cause de cette rencontre entre Jésus et moi, eh bien, à la pratique joyeuse des commandements de Jésus. Oui. Alors, ça, c'était le premier point. Bon, j'ai essayé de faire le deuxième quand même. Alors, c'est le dynamisme de l'oraison. Hein, l'oraison, comme je disais tout à l'heure, elle a pour but de nous tirer en avant. Donc, finalement, elle va prendre des formes variées au cours de notre pratique. Alors, deux points. Les étapes de l'oraison. Et puis, je ferai un zoom, si vous voulez, sur la première, qui est la plus, finalement, qui nous concerne peut-être le plus. C'est-à-dire la méditation. Alors, les étapes de l'oraison. Il y a une progression dans la pratique de l'oraison, et puisqu'elle est dialogale, il y a toujours deux aspects. Il y a l'aspect de l'homme, et puis la réponse de Dieu. Enfin, l'action de l'homme et la réponse de Dieu. Comme vous vous souvenez, Élie au Carmel. Élie va préparer un taureau pour être offert en sacrifice. Donc il va tuer le taureau, il va monter l'autel, il va faire tout un travail épuisant. Et puis à un moment, Dieu va envoyer le feu du ciel pour faire cuire le sacrifice, pour agréer le sacrifice. Vous voyez, l'homme fait un truc et Dieu répond à ce que l'homme a fait. Et dans l'oraison, c'est pareil. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut descendre en soi pour chercher la présence de Dieu. Et ensuite, on va percevoir que Dieu agit en nous. Et il agit d'autant plus que nous nous abandonnons davantage à lui. Et Thérèse en donne une image fameuse dans le livre de sa vie, des chapitres 11 à 19. Elle dit « Comment arroser une terre aride ?» Alors, il y a quatre étapes. Première étape, vous puisez avec un puits. Alors, c'est le recueillement actif. Là, toutes les puissances de l'âme travaillent, l'intelligence, la volonté, etc. etc. C'est fatigant. On trimballe des seaux, puis on verse les seaux sur la terre. Donc, ça ne fait pas beaucoup d'effet. Et en plus, c'est fatigant. Deuxième méthode, vous installez une noria. Une noria, vous avez une manivelle qui tourne, et puis il y a des petits godets qui descendent, qui se remplissent, et puis qui se versent dans un petit canal. Et puis, ça continue comme ça. Alors là, déjà, on se fatigue moins, et ça a plus d'effet. C'est par exemple juste la volonté, l'intelligence qui travaille. Voilà. Donc, c'est recueillement actif. Toutes les puissances de l'âme travaillent. Là, c'est un recueillement toujours actif, mais moins actif, déjà. Et il y a déjà une part de Dieu. Enfin, Dieu déjà travaille dans notre âme. La troisième étape, dit-elle, c'est un canal d'irrigation. Là, vous avez travaillé avant, et puis vous lâchez l'eau, puis l'eau va se répandre dans les cultures tropicales. Hein. Et là, ça veut dire que on a une suspension des puissances. Les puissances ne travaillent plus beaucoup, l'intelligence et la volonté. Et en fait, on est auprès de Dieu sans trop y réfléchir, sans trop faire d'efforts. C'est-à-dire que Dieu se réveille en nous d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle l'oraison de quiétude. On est calme auprès de Dieu, que l'on voit, que l'on contemple, alors par l'esprit, sans image. Et puis la quatrième étape, dit Thérèse, c'est la pluie. Dans la pluie, vous ne faites rien. Mais alors, strictement rien. Et ça marche très bien. Et là, votre terre est vraiment arrosée. Et là, c'est véritablement Dieu qui fait tout dans la prière. Et c'est ce qu'on appelle la contemplation. Et cette description de Thérèse rejoint tout à fait la tradition spirituelle. Je prends par exemple celle de Guigues le Chartreux du XIIe siècle, qui, en tant que bon moine, disait qu'il y a quatre étapes. Il y a la lectio, on lit à voix haute. Ensuite, il y a la meditatio, on réfléchit sur ce qu'on a lu. Ensuite, il y a l'oratio, on va formuler une prière à partir de ce qu'on a compris, de ce que la parole nous disait. Et après, si Dieu veut, il y a la contemplatio, c'est-à-dire que Dieu vient à ce moment-là se répandre en nous et nous faire goûter sa présence. Donc vous voyez, c'est un peu la même idée chez Thérèse. Alors, Sainte Thérèse donne une autre image dans les livres des demeures. Elle prend l'image d'un bassin. Alors un bassin, il peut se remplir de l'extérieur, là encore avec un petit canal, puis il y a de l'eau qui coule, ça fait du bruit, et bon, top, le bassin se remplit. Ou alors il peut se remplir avec une source à l'intérieur qui remplit le bassin, mais là, silencieusement. Vous voyez ? Dans la première chose, c'est vous qui faites le travail. Dans la seconde, c'est Dieu qui le fait. Imperceptiblement, on ne s'en rend pas compte. Et Thérèse soulignera souvent et elle montrera que justement la difficulté de l'oraison, c'est que quand on est fatigué de toute l'activité qu'on a déployée pour entrer en relation avec Dieu et qu'on a l'impression qu'on n'avance plus, eh bien, c'est que parfois Dieu est actif en nous sans qu'on en soit conscient, parce que précisément l'activité de Dieu est insaisissable. Et donc il y a des critères qui permettent de se rendre compte si notre sécheresse dans l'oraison est liée à un défaut de notre travail. Par exemple, on ne se recueille pas assez, on se laisse trop envahir par les distractions, ou, etc., etc. Ou alors, c'est parce que Dieu est en train d'agir par-delà notre intelligence et notre volonté, qui du coup, parce que Dieu, à ce moment-là, saisit le centre de notre âme, et le centre de notre âme, il ne dirige plus l'intelligence et la volonté qui papillonnent. Et alors, on a l'impression de régresser, alors qu'en fait, on progresse. Mais ça, Thérèse dit, il faut un directeur spirituel très avancé pour, à ce moment-là, dire... retournez en arrière parce que en fait, vous n'avez pas assez travaillé, ou alors allez de l'avant parce que là Dieu est vraiment très actif en vous et vous bah, justement mettez pas d'obstacle à son œuvre. Ça je le traite pas parce que on dit ça touche quand même des cas très avancés. Alors Thérèse met en garde contre une double tentation, celle d'en rester toujours à la méditation, c'est-à-dire, vous voyez, de ne pas se laisser aller plus loin, s'abandonner à l'œuvre de Dieu, mais qui nous déconcerte, ou alors passer trop vite à la contemplation en s'imaginant que ça y est, on est des grands priants, qu'on n'a plus besoin d'un livre. Et elle répondra que pendant 14 ans, elle n'a tenu à l'oraison qu'en méditant un livre. Hein ? Thérèse de Jésus, hein, dans le chemin de la perfection, pendant 14 ans, elle a tenu à l'oraison qu'avec un livre. Donc, il ne faut pas être trop prétentieux et s'imaginer que nous, on n'a plus besoin de méditer et qu'on est déjà dans des transports spirituels indicibles avec le bon Dieu. Hein. Alors, elle dit d'ailleurs que finalement, la contemplation, puisque c'est un pur don de Dieu, c'est pas nécessaire à notre vie spirituelle. On peut très bien vivre toujours avec les autres étapes. Et elle dit même que ça évite de tomber dans l'orgueil, parce qu'on reste dans l'humilité de celui qui continue à prier avec pénibilité. Mais voilà, au moins, il ne tombe pas dans l'orgueil. On dit ça dans le chemin de la perfection. Et alors, je termine... Avec la méditation, donc la première étape, si vous voulez, de l'oraison thérésienne. Mais enfin, on pourrait presque dire... Oui. Alors, donc là encore, comme je vous disais au début, méditation, ça nous fait penser à l'extrême-orient ou au New Age, etc. Donc, en fait, la méditation chrétienne, ce n'est pas la suspension des puissances, de l'intelligence, de la volonté, c'est pas ne rien vouloir, c'est pas ne rien savoir, etc. Mais c'est l'application de l'intelligence et de la volonté à un seul objet qui est la vie du Christ, par exemple. Un seul objet, c'est Dieu. On va vouloir connaître Dieu, on va vouloir l'aimer. Et il faut appliquer la pensée, la mémoire, l'imagination, l'intelligence, à un thème qui nous arrache à nous-mêmes. D'où l'utilité d'un support extérieur, par exemple un livre, parce que ça nous donne des idées, hein, du grain à moudre. Ça peut être aussi une image, une icône. Là, il y a toute la grande doctrine spirituelle, par exemple, de Saint Bonaventure, qui nous dit qu'on passe des sens externes aux sens internes, hein, et que reprend Saint Ignace de Loyola quand dans les exercices Saint Ignace nous dit qu'il faut goûter telle chose, qu'il faut sentir la puanteur de l'enfer ou des trucs de genre. Et ben vous voyez, on fait passer des sens externes qui ont une certaine connaissance de ce qu'ils font à la transposition à des vérités spirituelles ou théologiques, vous voyez. Donc il y a tout ce travail qui est de l'ordre de la méditation. Alors il y a plusieurs types de méditation. Par exemple, la méditation discursive, hein, donc c'est l'étude par l'intelligence d'un thème, d'un texte. Alors le problème, c'est que parfois, du coup, on fabrique des théories au lieu de prier. Donc c'est fatigant et parfois ça distrait aussi de ce qu'on devrait plutôt faire, vous voyez. Si vous commencez à faire un sermon, moi ça m'arrive, dans l'oraison, finalement vous réfléchissez à un truc, vous avez pris un texte de l'évangile, puis finalement vous commencez à vous composer un sermon. Bah, en fait vous vous éloignez de Dieu d'une certaine manière, hein, c'est pas le lieu de faire son sermon. Ou alors, il y a un type de méditation qui est un peu plus intuitive. Par exemple, se représenter un événement de la Bible, puis le voir intérieurement. C'est la composition du lieu. C'est le type de raison que propose Saint Ignace dans les exercices. Pour ceux qui ont déjà fait les exercices, vous voyez de quoi je veux parler. Et d'ailleurs, Saint Thérèse de Jésus aussi propose tout à fait ça. Thérèse et Ignace sont très très proches hein, quand ils parlent de la méditation, en particulier de la méditation intuitive. Puis il y a aussi après, si on établit le lien avec le Christ, c'est cette espèce de ce que je disais tout à l'heure, ce dialogue, cette conversation avec le Christ. On se plaint, on demande, on console, là aussi il faut être prudent parce qu'on finit par Dieu ne peut plus rien nous dire parce qu'on l'abrutit de notre bavardage. Alors il faut aussi à certains moments, vous savez, comme quand on parle à des amis, il y a des moments où on se tait, et plus c'est des vieux amis d'ailleurs, moins on a besoin de paroles pour se comprendre hein, et puis ça permet aussi à celui qui parle moins de pouvoir parler plus, de dire ce qu'il veut dire quoi. Et puis oui. Puis alors, il y a l'oraison dite de simple regard ou de simple présence, où on est juste, on est avec celui qu'on aime, vous voyez. Et là, même pas besoin de parole, simple fait d'être avec. Et les vieux couples doivent comprendre ça, j'imagine. Mais parfois, on n'a pas besoin d'abrutir le Jésus de beaucoup de choses. On est avec lui, dans le silence de notre âme. Alors, je prends un exemple pour terminer. Par exemple, Thérèse dit dans le chapitre 13 de sa vie, donc quand elle parle de la méditation, elle dit pour en revenir à ce que je disais, nous nous mettons à méditer sur un mystère de la passion, disons le Seigneur à la colonne. Vous vous souvenez, c'est ça qu'il a vraiment converti dans son monastère de l'incarnation. L'entendement cherche à comprendre ce qu'il nous suggère ainsi, les grandes douleurs et peines de sa majesté dans cette solitude et beaucoup d'autres choses que peut en tirer l'intelligence si elle est active et savante ou savante. Alors pour terminer, eh bien voyons de plus près la méditation discursive, celle des commençants. Alors prendre un livre évite de tomber trop vite dans les distractions actives qui nous ramènent souvent trop vite à l'extériorité de nous-mêmes. Quand on commence à faire le silence, on s'aperçoit que tout ce qu'on n'a pas réglé dans notre vie quotidienne, dans l'enchaînement de toutes nos activités, ça remonte. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Globalement, on contemple son agenda, ce qu'on va faire après, ou des choses comme ça.